RFI, 7h à Paris, 6h en temps universel.
Julien Coquel-Rohem.
Et le journal. Bonjour Marion Cazanov.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
À la une, le choc, l'inquiétude après une journée de chaos lors de la libération d'otages à Gaza.
Et qui montre la fragilité de la trêve entre Israël et le Hamas. Des otages libérés avec du retard, intimidés par une foule bruyante. Les images ont choqué en Israël. Le gouvernement a même suspendu quelques heures la libération de prisonniers palestiniens. Un calme précaire à Goma dans l'est de la RDC. La situation sera au cœur d'un sommet extraordinaire de la SADC à Harare, au Zimbabwe. L'enquête se poursuit à Washington après la catastrophe aérienne qui a fait 67 morts. Les deux boîtes noires de l'avion ont été retrouvées il y a quelques heures. Et puis on sera à Angoulême en fin de journal au Festival international de la bande dessinée qui propose cette année des concerts dessinés.
Au Proche-Orient, la fragilité de la trêve entre Israël et le Hamas.
Avec une journée de tension hier lors de la libération d'otages, 3 Israéliens et 5 Thaïlandais, libération chaotique avec du retard, ce qui a conduit Israël à suspendre quelques heures la libération de prisonniers palestiniens. 110 prisonniers ont finalement été accueillis hier soir par des scènes de liesse à Ramallah. On retrouve à Tel Aviv notre envoyé spécial Muriel Paradon. Le chaos d'hier, Muriel, a choqué les Israéliens que vous avez rencontrés.
Oui, ça a été encore beaucoup d'émotions contradictoires pour les Israéliens. La joie d'abord de voir sortir la première otage, une soldate apparemment en bonne santé, puis la stupeur en voyant les images de la libération d'Arbel Yehoud, entourée d'hommes cagoulés et armés du djihad islamique, qui avait du mal à se frayer un chemin au milieu de la foule. Elle semblait effrayée. La scène a été suivie sur un écran géant par des centaines d'Israéliens réunis à nouveau sur ce qui a été baptisé la place des otages à Tel Aviv. Ils sont venus nombreux en pleine journée, en pleine semaine. Il continue d'être mobilisé derrière ses otages. Hier soir, il y avait encore du monde sur cette place de Tel Aviv pour un concert. Ces libérations, c'est aussi un rapport de force qui se joue entre les autorités israéliennes et le Hamas. Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, a retardé, vous l'avez dit, la libération des prisonniers palestiniens pour protester contre ce qu'il estime être des scènes choquantes mettant en danger les otages. Le Hamas, de son côté, a mis en scène ces libérations comme celle de la soldate à Gamberger sortant des ruines du camp de Jabalia afin de montrer l'ampleur des destructions à Gaza, réaffirmant aussi sa présence sur le terrain, qu'il n'est pas vaincu. Ce rapport de force, ce jeu entre les deux parties montre à quel point l'accord de cessez-le-feu, qui n'en est qu'à sa première phase, est fragile.
Muriel Paradon en direct de Tel Aviv avec les moyens techniques de Nicolas Benita.
Et à Gaza, cela fait près de 2 semaines que les armes se sont tues.
Bientôt 2 semaines de cessez-le-feu. Si les bombardements ne rythment plus le quotidien, les Palestiniens sur place manquent de tout. Le système de santé, lui, est à terre. De nombreux hôpitaux ont été détruits ou partiellement détruits. Si les bilans palestiniens font état de 46 000 morts en 16 mois de guerre, ils devraient être revus à la hausse pour Maïm Koureichi. Cette chirurgienne qui opérait à Gaza il y a encore quelques mois estime que de nombreuses victimes n'ont pas été prises en compte.
On sait que le décompte est largement sous-estimé pour les morts directes. Mais on ne compte même pas ceux qui sont morts de la faim ou les morts avant la naissance par manque de nourriture et de soins. Les problèmes congénitaux qui en résulteront pour ces enfants, ils en paieront le prix pour le reste de leur vie. Le décompte n'inclut pas non plus les personnes qui sont mortes de maladies qui auraient tout à fait pu être traitées dans le système de soins palestinien tel qu'il existait avant la guerre. L'hôpital Nasser avait une unité de dialyse. Quand j'y étais il y a quelques mois, elle accueillait 30% de patients en moins qu'avant la guerre. Est-ce que les bilans prennent en compte les morts qui surviennent des semaines après une hospitalisation pour septicémie? Nous n'avons qu'une infime idée de ce bilan humain, que ce soit les morts ou les souffrances, et je ne crois pas que l'on saura jamais à quel point cela fut terrible.
Maïm Koureichi avec Abla Junaidi. L'armée israélienne poursuit, elle, une offensive à Jenin en Cisjordanie occupée. L'autorité palestinienne affirme que 2 Palestiniens ont été tués hier au 9e jour de cette opération israélienne. L'armée israélienne dit aussi avoir frappé des cibles du Hezbollah au Liban dans la nuit.
On ne devrait plus le voir dans son uniforme militaire. En Syrie, le président intérimaire donne un premier discours à la nation.
Dans un costume cravate, Ahmed al-Shara a présenté ses priorités, la paix civile et l'unité du territoire. Il a aussi promis un dialogue national. Et avant ce discours, le président par intérim a reçu l'émir du Qatar. C'est le premier dirigeant étranger à se rendre à Damas depuis la chute du régime.
RFI 8h05 à Goma, dans l'est de la RDC, où règne un calme précaire.
Quelques commerces ont rouvert hier le chef-lieu du Nord Kivu. Encore sous le choc des affrontements entre l'armée congolaise et le M23 soutenu par le Rwanda, le M23 qui a pris position dans la plupart des quartiers et dans la périphérie de Goma. Côté rwandais, à la frontière, le point de passage, la petite barrière a partiellement repris ses activités hier, mais certains craignent encore d'emprunter la route. Reportage à Guy Seni de Lucie Mouillot.
Dans le marché transfrontalier, seuls quelques transporteurs rwandais attachent les légumes dans leurs chariots avant de se diriger vers la petite barrière. Le bâtiment semble bien vide pour les commerçants. Certains, comme Erissa Abiarimana, n'osent pas encore traverser.
Aujourd'hui, je n'y vais pas à cause de ce problème. Il n'y a pas de sécurité là-bas, mais je pense pouvoir y aller demain.
Le commerçant vend d'habitude des patates douces et des pommes de terre à Goma, une activité bloquée ces derniers jours depuis les affrontements en début de semaine autour de la frontière.
Nous avons besoin de la paix pour les deux pays, le Congo et le Rwanda. Nous avons besoin de la paix et nous avons besoin de vendre. Nous avons besoin de traverser la frontière, que les Congolais viennent au Rwanda et que les Rwandais viennent au Congo. Si on a ça, on n'a pas de problème.
À l'intérieur du bâtiment, la majorité des étals étaient encore fermés ce mercredi. Samy fait partie des rares vendeurs de retour sur le marché.
Le marché fonctionne, mais il y a un problème de clientèle. Il n'y a pas beaucoup de clients. Aujourd'hui, ceux qui viennent acheter nos légumes, ce sont ceux qui sont déjà au Rwanda, pas ceux qui viennent de Goma.
En fin d'après-midi, beaucoup de boutiques dans la rue menant vers la frontière fermées plus tôt dans la journée avaient rouvert leurs portes, donnant l'espoir aux commerçants d'un retour rapide à la normale. Lucie Mouillot, Guy Seni, RFI.
La situation dans l'est de la RDC sera au cœur du sommet extraordinaire de la SADC à Harare, au Zimbabwe. La communauté de développement de l'Afrique australe, qui a déployé une force sur place, devrait notamment se prononcer sur l'avenir de cette force. Le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, se trouve quant à lui à Kigali. Il devrait rencontrer le président rwandais, Paul Kagame, et pourrait, selon des sources, demander le retrait des troupes rwandaises. La veille à Kinshasa, il s'entretenait avec le président congolais Félix Tshisekedi. La France, dont la présence militaire se réduit peu à peu en Afrique de l'Ouest, elle a rétrocédé hier sa dernière base au Tchad, conformément à la volonté de N'Djamena. Nouvelle étape alors que le Sénégal négocie en ce moment le retrait des troupes françaises d'ici la fin de l'année.
À Washington, les enquêteurs tentent de faire parler les boîtes noires de l'avion qui s'est écrasé.
Elles ont été retrouvées il y a quelques heures dans le Potomac, le fleuve qui traverse la capitale américaine. La collision entre un avion et un hélicoptère a fait 67 morts. Et si l'enquête se poursuit, certains, comme le président Donald Trump, tirent déjà des conclusions. À Washington, Guillaume Nodin.
Donald Trump ne perd pas de temps. Moins de 24 heures après la collision et alors que les secours repêchent encore des corps dans le Potomac, le président dénonce les politiques de ses prédécesseurs démocrates. Pour lui, c'est l'occasion de mettre en avant son choix d'en finir avec les politiques de diversité dans le recrutement et il laisse entendre qu'il y a eu erreur humaine. Les enquêteurs du Bureau national de la sécurité des transports ne vont pas aussi vite. Todd Inman est chargé de l'enquête.
Notre mission est de comprendre non seulement ce qui est arrivé, mais pourquoi c'est arrivé, et de recommander les changements pour éviter que cela se reproduise. Nous n'allons pas déterminer les causes probables de l'accident. Pendant que nous sommes sur les lieux, nous ne spéculerons pas sur ce qui a pu causer cet accident. Nous ne connaissons pas suffisamment les faits pour pouvoir exclure ou intégrer le facteur humain ou matériel. Cela fait partie de l'enquête. C'est pourquoi nous sommes une référence. Nous prendrons le temps qu'il faut.
Un rapport préliminaire est annoncé dans les 30 jours. En attendant, les enquêteurs feront connaître les informations dont ils disposent. Ils ne confirment pas encore, par exemple, les informations de presse selon lesquelles un aiguilleur du ciel aurait fait le travail de deux personnes le soir du drame. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
La Chine présente ce matin ses condoléances après cette catastrophe aérienne et appelle à déterminer rapidement les causes de l'accident. Deux ressortissants chinois étaient à bord de l'avion.
En Birmanie, cela fera 4 ans demain qu'un coup d'état militaire a renversé le gouvernement.
Les manifestations contre la junte ont été violemment réprimées. Depuis, plus de 6200 civils ont été tués, 3 millions déplacés de force et 20 millions de Birmans ont besoin d'aide humanitaire. C'est un tiers de la population. Hier, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni pour discuter de la situation sur place. Il s'est inquiété notamment d'une aggravation des violences. Compte rendu à New York de Karine Auton.
La nouvelle envoyée spéciale de l'ONU en Birmanie, l'Australienne Julie Bishop, a multiplié les contacts en Asie et pourtant, la résolution réclamant la fin de la violence et la libération des détenus arbitraires, votée il y a 2 ans par le Conseil, n'est toujours pas respectée. Les sanctions concernant le trafic d'armes ou de carburant pour les jets de la junte qui bombardent la population sont aussi bafouées. L'ambassadeur birman qui s'est affranchi du régime il y a 4 ans a exprimé la frustration de son peuple. Il s'est entretenu avec le Conseil sur des demandes très précises.
Nous continuons de demander au Conseil de sécurité de l'ONU de nous aider à sauver le peuple du Myanmar. Nous avons donc besoin de cette action forte de la part du Conseil de sécurité de l'ONU. Aidez-nous à stopper le flux d'armes. Aidez à arrêter le flux de carburant à la junte militaire. Nous demandons à la communauté internationale de rejeter les élections, car ce seront des élections forcément truquées, pas des élections libres et équitables.
Si le Conseil de sécurité reste bloqué sur le dossier, l'ambassadeur birman promet d'explorer toutes les avenues possibles pour mobiliser la communauté internationale. Karine Hotton, New York, RFI.
Et puis Marion, les amateurs de bande dessinée dans leur bulle à Angoulême, dans le sud-ouest de la France.
Au Festival international de la BD, au programme des expositions, des séances de dédicaces, des conférences, mais aussi des concerts de dessin, Julien. Le public peut savourer un concert de musique en direct animé sur un écran par des croquis, dessinés en direct, eux aussi, par un auteur. Sophie Torlotin est à Angoulême. Early in the
morning. Hier soir, pendant que le trio parisien Oracle Sisters jouait son folk onirique, Jérémy Moreau restait concentré sur sa tablette graphique. Le dessinateur, habitué à l'isolement et au calme de son atelier, est ravi de se produire avec un groupe dont il connaît bien la musique.
J'avoue qu'il y a une petite excitation de me dire « Ah bah ils vont voir dans quel ordre je mets en place mon dessin ». Des images sur l'ambiance d'un voyage dans les montagnes, dans l'eau. On est vraiment dans la spontanéité et l'impro, et je sais qu'il n'y a pas mort d'homme si je finis pas mon dessin en même temps que le splash de batterie.
Ce vendredi, autre ambiance avec un trio, le franco-rwandais Gaël Faye, qui s'est déjà prêté à une lecture musicale de son nouveau roman, Jacaranda, accompagné de Samuel Kamanzi à la guitare, reproduit l'expérience avec une dimension supplémentaire. Sylvain Savoya, qui a adapté en BD son livre Petit Pays, dessinera en direct Gaël Faye.
J'arrive avec mon univers musical, mais en même temps, il y a le dessin et c'est cette rencontre-là. Et je suis pour le métissage en toutes choses. Donc, quand on peut faire se rencontrer les arts, ça me parle tout de suite et ouais, ça m'excite à fond.
Sophie Torlotin, Angoulême, RFI.
Festival international de la BD d'Angoulême jusqu'au 2 février.
Merci Marion Cazanov. 7h13 à Paris dans quelques minutes. Nos invités, les journalistes français Gérard Davet et Fabrice Lhomme. Ils signent un livre de révélation sur la gestion du Covid par le gouvernement français intitulé « Les juges et l'assassin ». Mais tout de suite les sports. Avec vous Baptiste Leduc, le football pour commencer. L'Olympique Lyonnais a obtenu sa qualification pour les huitièmes de finale de l'Europa League, mais dans la douleur.
Oui, les Gones n'ont pas pu faire mieux qu'un match nul, un but partout contre les modestes Bulgares de Ludogorets, mais cela suffit pour faire partie du fameux top 8 de la phase de Ligue et rallier directement les huitièmes de finale de cette Europa League. La mise à l'écart de l'entraîneur Pierre Sage n'a pas réveillé des Lyonnais qui auraient même pu perdre la partie dans les derniers instants sans un arrêt absolument exceptionnel de leur gardien brésilien Lucas Perry. Ryan Cherki, l'attaquant de l'OL, reconnaît que quand on ne peut pas gagner, l'important c'est bien sûr de ne pas perdre.
On a toujours envie de bien faire, surtout quand on voit la première partie de saison qu'on a eu à faire. Je préfère avoir un petit coup de moins bien maintenant plutôt qu'en fin de saison. Ça va finir par passer. L'important, c'est qu'on ne perd pas les matchs. Je pense qu'il y a une période, la saison dernière, on aurait perdu tous les matchs. Aujourd'hui, on arrive à ne pas perdre et je pense que c'est le plus important. Maintenant, en tant que compétiteur, on est bien sûr frustré de ne pas gagner ces matchs-là. On va continuer de tout faire pour les gagner et j'espère que dans peu de temps, ça paiera.
Prochain match pour Lyon dès dimanche contre l'OM. Gros test pour les débuts sur le banc de leur nouvel entraîneur, le portugais Paulo Fonseca.
En basket, Victor Wembanyama continue son ascension à NBA. Il vient d'être sélectionné pour le All-Star Game.
Voilà, vous, Julien, vous êtes All-Star de RFI et Wembanyama, il est All-Star de la NBA ce week-end. C'est mieux, c'est peut-être mieux, je sais pas.
Plus prestigieux.
En tout cas, ce week-end de gala prestigieux qui rassemble les meilleurs joueurs de la Ligue nord-américaine de basket. Il aura lieu le 16 février à San Francisco, en Californie. Et Wemby fait partie des 12 joueurs retenus de la conférence Ouest, aux côtés de LeBron James, Stephen Curry ou Nikola Jokic. Pour sa deuxième saison au NBA, Wembanyama, le géant des Spurs de San Antonio, avait fait de cette sélection un objectif. Il est atteint et il devient le quatrième français All-Star après Tony Parker, Joachim Noah et Rudy Gobert.
Et puis le handball pour terminer, déception pour l'équipe de France éliminée du mondial aux portes de la finale.
Pas de 7e étoile pour les Bleus, les joueurs de Guillaume Gilles n'ont rien pu faire en demi-finale face à la tornade croate. Devant son public, le pays organisateur s'est imposé 31-28. Surtout, les Français sont passés totalement à côté de la première période où ils ont abandonné tout espoir de victoire en rentrant au vestiaire avec 7 points de retard. Le capitaine des Bleus, Ludovic Fabregas, a reconnu la supériorité de la Croatie.
Bah déjà, bravo aux Croates. Je pense qu'ils ont, ils ont été dominateurs sur ce match-là, notamment en première période. On a pris beaucoup de retard au début, ce qui a fait qu'on a couru derrière le score durant toute la rencontre. Malgré tout, on tient une super réaction en deuxième mi-temps. Tout le monde a tout donné. Et quand on donne tout comme ça sur une deuxième mi-temps pour revenir au score et croire en notre rêve, ben, on peut rien dire. Donc bravo pour cette deuxième mi-temps, mais malheureusement ça n'a pas suffi.
La Croatie jouera la finale contre le vainqueur de l'autre demi entre le Danemark et le Portugal, la surprise de ce mondial. Le vaincu et la France disputeront le bronze dans deux jours.
Baptiste Leduc pour les sports, merci beaucoup, à tout à l'heure. Bonjour Stéphane Genest.
Bonjour Julien.
Dans Aujourd'hui l'économie ce matin, on s'intéresse à une thématique qui nous concerne tous, la démographie, à savoir le nombre d'individus qui composent chaque pays et donc à la fin le nombre de personnes sur notre planète. Le cabinet de conseil McKinsey a publié un rapport sur cette thématique ces derniers jours, car c'est un sujet qu'on pourrait croire de l'ancien monde, mais il ne l'est pas. Il est pris très au sérieux par les responsables politiques du monde entier, Stéphane.
Oui, exemple tout récent, c'est en France. La ministre du Travail et de la Santé entend lancer un plan démographique pour 2050. L'an passé, les naissances ont légèrement diminué. En 2050, il y aura deux fois plus de personnes âgées de plus de 80 ans qu'il n'y en a aujourd'hui.
Ça, c'est donc pour la France. Mais Stéphane, aucun continent n'est épargné par cette dynamique.
Et oui, car les Terriens et les Terriennes font moins d'enfants. Alors qu'on soit clair, hein, au niveau mondial, il y a un ralentissement du nombre de naissances. Mais le solde, lui, est toujours positif. D'après le Fonds des Nations Unies pour la population, le nombre de naissances par femme à l'échelle mondiale a progressivement diminué au cours des 75 dernières années. Il était de 5 en 1950. En 2050, il devrait atteindre 2,1. L'enjeu est donc de taille pour la croissance mondiale.
Alors, vous nous parlez d'enfants puis de croissance. Quel rapport entre démographie et économie, Stéphane ?
Eh bien Julien, si l'on fait moins d'enfants et qu'en parallèle la population vieillit, ce qui est le cas dans beaucoup de pays développés, cela va avoir des conséquences concrètes. Mécaniquement, ça va entraîner une baisse de la proportion de personnes en âge de travailler. Résultat, la production de richesses et les recettes fiscales vont diminuer. Et comme c'est un vaste communicant, qui dit personnes âgées dit coûts liés au vieillissement en raison par exemple des retraites à payer ou des soins de santé à prodiguer. Un coût visible dans les comptes publics des États. D'après l'agence de notation S&P, les déficits budgétaires pourraient exploser d'ici à 2060, passant d'une moyenne aujourd'hui de 2,4% du PIB mondial à 9,1%.
Et quelle solution à apporter à cette dynamique ?
Alors je vais vous décevoir Julien, mais le nombre de politiques pronatalistes un peu partout dans le monde prouve qu'il n'y a pas de solution miracle. Juste un exemple, il est peu connu, en Finlande, la deuxième plus petite ville du pays offrait 1000 euros par mois à un foyer pendant 10 ans à chaque nouveau-né à condition de rester y vivre. Eh bien, c'est un échec. La population de la ville a diminué de 20%. En fait, faire des enfants, c'est une chose, mais il faut que le reste suive, à savoir les politiques de soutien à la famille, les services de garde d'enfants, d'éveil, d'enseignement. Le tout sans mettre de pression aux couples, mais aussi et surtout aux femmes. Et si d'aventure la dynamique changeait aujourd'hui, eh bien Julien, on ne verrait ses effets que d'ici 20 ans.
Aujourd'hui, l'économie. Stéphane Genest, merci beaucoup. 7h19 à Paris, cela faisait 5 ans déjà. Hier, le 30 janvier 2020, l'OMS classait l'épidémie naissante de Covid comme une urgence de santé publique internationale. Personne à ce moment-là n'imaginait ce qui devait se produire quelques semaines après, une planète entière à l'arrêt et submergée par les malades et les morts. En France, depuis 5 ans, c'est l'impréparation du gouvernement pour faire face à la pandémie qui est pointée du doigt. Les journalistes Fabrice Lhomme et Gérard Davet signent un livre de révélation intitulé « Les juges et l'assassin ». Ils sont nos invités ce matin au micro d'Arnaud Pontus.
Bonjour à vous Gérard Davet, Fabrice Lhomme.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. « Les juges et l'assassin », c'est votre dernier livre enquête autour des dysfonctionnements de l'État français dans la gestion de la crise du Covid-19. Vous avez pu accéder au dossier confidentiel de la Cour de justice de la République qui a enquêté sur les actes de 3 ministres, plus d'un million de pages de documents secrets, des mails, des textos, des rapports, des témoignages. La crise sanitaire qui a éclaté il y a tout juste 5 ans semblait imprévisible, mais vous nous dites que cette crise, elle était prévisible et même prévue. Qu'est-ce qui vous permet de le dire ?
Eh bien, ce qui nous permet de dire cela, c'est, on va dire, la consultation par nos soins de dizaines de rapports, de notes, de documents divers qui ont été transmis aux autorités politiques dans les années 2010 jusqu'au début des années 2020, donc jusqu'au surgissement du Covid. Et tous ces rapports, tous ces documents mettaient en garde, alertaient l'exécutif sur le fait que une pandémie mondiale était plus que probable, était inéluctable, et que surtout, pour y faire face, il fallait s'organiser et prévoir notamment des équipements de protection, parmi lesquels les fameux masques, on en reparlera sans doute. Or, il se trouve que ces rapports, ces notes, ces alertes n'ont absolument pas été pris au sérieux, et au contraire, on a laissé péricliter les équipements de protection dont les Français avaient tant besoin quand la crise a surgi.
Qui a ignoré ces alertes ? Et c'est 51 rapports, parce que vous les avez comptés. Hein.
51 rapports, tout à fait, en l'espace de 20 ans au maximum. Qui l'a ignoré ? Mais déjà, en premier lieu, ce sont les autorités politiques. Ça, pour nous, c'est important. C'est un livre politique aussi qu'on a fait, parce qu'on rentre au cœur de la machinerie politique, de la machinerie administrative, et entre les deux, il n'y a pas toujours de connexion. Et là, on a été vraiment jusqu'au bout des choses pour essayer de comprendre ce qui avait pu se passer. Clairement, les avertissements des scientifiques et autres parlementaires n'ont pas été pris en compte par les autorités politiques, en particulier par Emmanuel Macron, Édouard Philippe et Agnès Buzyn, ce qui explique l'enquête de la CGR les concernant. Et par ailleurs, non seulement ça n'a pas été pris en compte, mais ces mêmes responsables ont laissé l'appareil sanitaire périclité durant ces 3 années de pouvoir.
Alors, et c'est comme ça que quand le virus arrive en France, en janvier 2020, on se rend compte qu'on manque très cruellement de masques.
Oui, alors nous publions une série d'échanges par mail ou par SMS entre les responsables de l'exécutif et soit entre eux, soit avec leur administration, notamment le ministère de la Santé et la Direction Générale de la Santé, qui est le bras armé du ministère. Et on s'aperçoit, avec le recul, quand on a lu ça, on était un petit peu halluciné, on s'aperçoit qu'en fait, tout le monde découvre que d'abord, il aurait fallu avoir des masques.
Oui, qu'il y avait un stock qui était prévu.
Exactement, que initialement, on va dire 10 ans auparavant, il y avait un stock de masques qui dépassait les 2 milliards. Tous les experts disaient, et ça encore une fois on le prouve rapport à la clé, qu'il fallait au moins en avoir 1 milliard, donc on était largement pourvu. Oui, mais sauf que quand la crise éclate, on n'en a plus que quelques dizaines de millions. C'est totalement ridicule. Le stock a totalement fondu. Et s'ajoute à ça que dans le stock, une partie des masques sont périmés et que d'autres qui sont éventuellement périmés mais qui sont en fait utilisables sont détruits, passent à la broyeuse alors que les Français en manquent terriblement. C'est assez stupéfiant.
Mais comment on passe d'une doctrine qui voudrait qu'on ait, que la France ait 2 milliards de masques en stock à 60 millions à peine et encore pas tous valables? Qu'est-ce qui se passe?
Il se passe simplement que l'appareillage politique a fauté. Alors on parle des masques, mais il y a bien plus grave que les masques. Il y a la déconnexion de l'appareillage politique. C'est-à-dire que ce soit Agnès Buzyn, que ce soit...
Qui était ministre de la Santé.
Tout à fait. Édouard Philippe et Emmanuel Macron. Édouard Philippe Premier ministre à l'époque, Emmanuel Macron président. Ces gens-là n'ont rien fait de ce qu'il fallait faire au tout début de la crise. Je parle par exemple de la prise en compte déjà de cette crise. Elle arrive assez rapidement, puisque Agnès Buzyn fait un peu...
Alerte.
Fait la lanceuse d'alerte, oui. Tout à fait. Elle arrive très rapidement sur le bureau d'Emmanuel Macron et d'Edouard Philippe, c'est-à-dire tout début janvier 2020. Eh bien, il va falloir attendre le 17 mars pour que Edouard Philippe lance ce qu'on appelle une cellule interministérielle de crise qui permette de gérer de manière interministériel en mobilisant l'armée et autres pour gérer cette crise. Et tout a été comme ça.
C'est-à-dire donc le stock de masques mal géré, voire pas géré du tout, abandonné, et la prise en compte politique oubliée en cours de route.
Mais ça, c'est gravissime.
Vous parliez d'Agnès Buzyn qui dit à son Premier ministre « Vous êtes en dehors de la plaque. Je ne perds pas mes nerfs, je suis lucide. » C'est un échange de textos. Hein. « Derrière vos décisions, ce sont des gens qui vont mourir », lui écrit-elle.
C'est un texto qui est assez fort, évidemment, et surtout qui prouve bien que il y a un véritable lien, c'était l'objet de l'enquête judiciaire d'ailleurs, entre le manque d'équipement, la désorganisation aussi qu'on raconte en long, en large et en travers, et la vie des gens, en fait. C'est parce qu'on parle de ça concrètement, hein. Nous, depuis la sortie du livre, on a eu un nombre assez important, c'est le moins qu'on puisse dire, de messages de personnes qu'on ne connaît pas forcément, de scientifiques, de médecins, de simples citoyens qui nous disent qui ont les larmes aux yeux pour nous expliquer que, par exemple, leur mari, qui était médecin de haut niveau, est mort parce qu'il ne pouvait pas se protéger.
Oui. Ce sont vos premiers mots dans le livre, hein, pour ces 170 000 morts en France.
Exactement. Et derrière ça, il n'y a aucune démagogie de notre part. C'est pas du tout l'enjeu du livre. Oui, c'est si un livre d'intérêt public, une enquête d'intérêt public, c'est bien celle-là parce que ça concerne en fait chaque citoyen véritablement.
Gérard Davé, Fabrice Lhomme, est-ce que vous n'êtes pas exagérément sévère? On se souvient aussi combien la gestion de la crise dans les autres pays européens a été chaotique.
32 000 morts en 6 mois, c'est vraiment une catastrophe. L'indice de mortalité français. Ah, c'est décuplé bien plus que dans d'autres pays. Alors oui, l'Angleterre a failli. Mmh. Oui, les USA ont failli. Oui, le Brésil a plus que failli. Mais nous sommes la France. Nous avions un appareillage sanitaire et un appareillage de santé publique qui était remarquable et qui était considéré comme tel par l'OMS. Eh bien, nous, pendant 6 mois, on a vraiment manqué de tout, d'organisation, de masques, de respirateurs, de détecteurs de température dans les aéroports. Et ce qu'on produit dans ce livre, c'est justement l'épreuve de ce double discours. C'est-à-dire que le plus grave que ce manque d'organisation, c'est que les politiques en place ont eu connaissance et on se sont rendu compte que ça n'allait pas et ne l'ont pas dit. C'est-à-dire qu'ils ont fait un double discours qui est absolument ahurissant.
Oui, notamment sur les masques, on cache la pénurie en disant « mais vous n'en avez pas besoin ».
Au public, on dit « voilà, exactement ce que vous venez de dire ». Et en fait, en interne, et là on produit les échanges de SMS ou de coups de téléphone et autres, et de mails saisis par les juges, qui montrent qu'ils étaient très conscients de ce qui n'allait pas et qu'il ne fallait pas le dire, tout simplement.
Ouais. La base de votre enquête, c'est le dossier de la Cour de justice de la République. Est-ce qu'il peut y avoir des condamnations?
Alors, a priori, il n'y aura sans doute pas de condamnation dans le volet ministériel, hein, celui auquel on s'est le plus intéressé et celui qui regorge, encore une fois, d'informations très, très importantes, à notre avis. Il reste aux juges à décider ce qu'ils font à la fin de leur enquête. Mmh. Mais à partir du moment où il n'y a plus personne de mise en examen dans cette affaire, il est peu probable que cette affaire se termine au tribunal. Il n'y aura sans doute jamais de procès. Et donc, d'où l'utilité aussi de ce livre, c'est pour mettre sur la place publique des choses qui ne se traduiront pas forcément judiciairement, mais qui doivent nourrir le débat public.
Des ministres responsables, mais pas coupables.
Exactement. Et d'ailleurs, on a même conclu notre livre en donnant clairement le sentiment qui était le nôtre après avoir examiné ce million de documents, c'est que oui, ils ne seront probablement pas jugés coupables par les juges parce que les incriminations pénales ne tiennent pas, mais peut-on dire qu'ils ne sont pas responsables et même irresponsables? Oui, on peut le dire, parce que vraiment, l'analyse de tous ces documents montre qu'il y a eu faillite d'État.
Merci Gérard Davé, Fabrice Lhomme.
Merci à vous.
Merci et bonne journée.
Les journalistes Gérard Davé, Fabrice Lhomme, auteur du livre Les juges et l'assassin, une plongée dans les coulisses de la gestion du Covid par le gouvernement français. Ils étaient au micro d'Arnaud Pontus et c'est un entretien que vous retrouvez dès maintenant sur RFI.fr et notre application Pure Radio.
Santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur le thème d'aujourd'hui.
Dans notre émission Questions de femmes, un spécialiste à votre écoute pour mieux comprendre les troubles et maladies de la thyroïde. Quels symptômes, quels traitements?
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité Santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Le Centre Pompidou Metz présente l'exposition « Après la faim, carte pour un autre avenir » du 25 janvier au 1er septembre. Au programme, 40 artistes internationaux autour de récits nouveaux et ancestraux, populaires et modernes, traversés par l'histoire coloniale et post-coloniale. Après la fin, carte pour un autre avenir à partir du 25 janvier. Plus d'informations sur centrepompidou-metz.fr. En partenariat avec RFI.
Demain sur RFI,
c'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Plus de 80% de la production d'huile de palme provient d'Indonésie et de Malaisie. Critiquée pour la déforestation massive et les impacts sociaux qu'elle entraîne, elle est en pleine expansion sur le continent africain. Nous vous emmenons au Cameroun et au Bénin.
C'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Du mercredi au vendredi à partir de 14h10 TU sur RFI.